allumant votre radio. C'est quand Michael Jackson était encore noir. The Cure.
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Ah, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Et bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h02 et on vous le dit en direct puisque pour la deuxième fois pour nous Canu Info du mercredi, c'est les infos déconfinées. On est en studio. La semaine dernière, on était un et c'était pas moi. Cette semaine, on est déjà deux. Où est-ce qu'on va s'arrêter?
Alors, de quoi on va parler ce soir?
Eh bien, ce soir, figurez-vous que des entreprises fraudent sur l'histoire de chômage partiel. Et puis, le Ségur de la Santé a commencé lundi. Et puis il y a des lieux culturels qui ouvrent, d'autres qui ferment. C'est assez incompréhensible, mais on essaiera de voir un petit peu le détail, et peut-être de voir si chaque personne, en écoutant ce détail, pourra essayer d'y déceler une certaine logique ou non. Stop Covid, l'incompétence du gouvernement est notre meilleur allié sur ce coup-là. Pas partout, mais alors sur ce coup-là, carrément. Sur les bateaux de croisière, des employés coincés à bord, protestation et finalement même suicide. Les médias français sont extrêmement contre le racisme de la police, en tout cas quand il s'agit de la police américaine. Et puis si on a le temps, peut-être on pourra faire une dernière petite info pour la rigolade, c'est des histoires de flics bourrés qui gazent un flic. L'article sur lequel je l'ai pompé s'appelle « Même la police déteste la police
». Canu Info. Du mercredi.
Et on va commencer par une petite brève. À Izmir, en Turquie, plusieurs mosquées diffusent Bella Ciao à la place de l'appel à la prière. Les autorités turques ont ouvert une enquête jeudi, alors c'est jeudi dernier, l'histoire remonte déjà il y a une semaine, après que des inconnus ont piraté le système d'appel à la prière à Izmir, alors visiblement c'est un truc informatisé, pour diffuser le chant antifasciste italien Bella Ciao à partir des minarets de plusieurs mosquées de la ville. C'était mercredi dernier, donc à l'heure de l'appel à la prière, le soir. Là, la séquence a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Comme quoi, il doit quand même y en avoir certains qui devaient être au courant à l'avance. Ça n'a pas du tout fait rigoler le parquet d'Izmir, qui a ouvert une enquête sur cet incident, et aussi contre, ma foi, tous les usagers des réseaux sociaux qui sont soupçonnés de dénigrement des valeurs religieuses pour s'être félicités de cette action. Voilà, c'est tout pour la brève.
Depuis 2 mois et demi, l'argent public vient remplir les trésoreries des entreprises en versant les salaires des travailleurs en chômage partiel. Selon une étude du cabinet Technologia qui a interrogé 2600 élus du personnel et représentants syndicaux, la moitié d'entre eux a constaté des pratiques abusives dans leur entreprise, c'est-à-dire des demandes d'activité. 24%, c'est-à-dire presque un quart des travailleurs en chômage partiel, donc, ont continué à travailler sur demande de leur employeur, que ce soit dans la communication, l'immobilier, la téléphonie ou l'informatique. Certains ont accepté de gérer ponctuellement des dossiers, d'autres ont été sollicités à temps plein, parfois très directement par leur hiérarchie. Certains travailleurs l'ont fait en connaissance de cause, par culpabilité ou par générosité. D'autres ont découvert avec surprise sur leur feuille de paie qu'officiellement ils étaient déclarés en chômage partiel après un mois de travail. D'autres encore, ayant connaissance de la magouille de leur patron, n'ont pas osé la rendre publique par crainte de perdre leur emploi. Si certains des témoignages des salariés dédramatisent la situation, voire la trouvent normale, d'autres dénoncent clairement un procédé honteux qu'ils et elles n'ont pas osé dénoncer de peur de perdre leur emploi ou de passer pour feignants. Certains, placés en chômage partiel à 50%, s'attendaient à travailler à mi-temps, mais ont vu leurs horaires de travail dépasser honteusement ce qui était prévu. On pourrait croire que c'est surtout le cas dans des petites entreprises où les salariés considèrent qu'il faut aider la boîte à s'en sortir et faire des sacrifices. Mais les témoignages recueillis mentionnent des entreprises de plusieurs centaines, voire 10 000 et 80 000 salariés. L'explication donnée par le cabinet qui a mené l'enquête paraît un peu légère. Je cite « Le basculement dans le confinement et donc dans le chômage partiel s'est fait de manière rapide, avec parfois un maintien de l'activité. Certaines personnes sont parties en chômage partiel, même si elles avaient des compétences critiques. Quand les managers ont voulu faire tourner leur entreprise, ils se sont rendus compte que ces compétences leur manquaient. Elles les ont rappelées sans les enlever du dispositif de chômage partiel. » Voilà un simple oubli administratif. L'un des employés d'une entreprise de prestataires de services de plusieurs centaines de salariés témoigne sur France Inter. On lui a demandé par téléphone de rester mobilisé, de gérer encore plus de choses du fait de son statut de cadre et d'une situation de crise, donc de travailler à 120% tout en étant au chômage partiel. Le tout avec un salaire qui a diminué de 16% puisque son entreprise n'a pas jugé utile de compléter l'indemnité de chômage partiel délivrée par l'État, qui représente 84% du salaire net. Bien sûr, son entreprise a connu une forte croissance ces dernières années et est loin de fonctionner à flux tendu. Une autre salariée dans une entreprise parisienne de communication résume bien la situation. C'est quand même gênant de recevoir cette aide, ça donne l'impression qu'ils se sont servis de nous pour faire des économies.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et on va parler de ce fameux Ségur de la santé.
Et oui, ce cycle de quoi, de négociations appelé bizarrement le Ségur de la santé a commencé lundi. Maintenant que la crise du coronavirus se calme un peu, le gouvernement veut faire quelque chose pour l'hôpital public. Il faut dire que ça fait un an, largement un an, que les personnels de l'hôpital organisent des grèves et des protestations pour dénoncer, ma foi, le manque de lits, le manque de personnel, le manque de matériel et le ridicule des salaires, pardon. Alors, quand le virus est arrivé, étonnamment, bah, ma foi, il manquait de lits, il manquait de matériel. Les soignants et les soignantes étaient devenus des héroïnes et des héros du pays. Et du coup, aujourd'hui, eh ben, le gouvernement essaye de se montrer un peu sympa, parce que ça se fait pas de continuer à être hyper dégueulasse avec ses héroïnes et ses héros. Mais dans quelle mesure est-ce qu'il s'agit là d'une vraie négociation, ou dans quelle mesure est-ce que c'est juste du pipeau ? Eh ben, bien sûr, c'est trop tôt pour le savoir. Mais quand même, dans son discours d'ouverture des négociations, Édouard Philippe a, disons, très mal commencé. Après que son gouvernement, dans la continuité des gouvernements précédents, hein, attention, c'est pas les seuls fautifs, mais enfin, c'est largement aussi des fautifs. Après que donc son gouvernement ait tout fait pour que l'hôpital soit géré comme une entreprise comme les autres, avec toutes les économies possibles, il affirme toujours que c'était la bonne chose à faire. Et donc, dans son fameux discours d'ouverture des négociations, il a dit « La crise exige non pas nécessairement de changer de cap, mais très certainement de changer de rythme. » Alors, le même cap, mais plus vite, il veut dire. Ça veut dire qu'il va supprimer des lits encore plus vite. Ou alors, c'est plutôt peut-être qu'il va faire semblant que son idée n'avait jamais été de supprimer des lits, ou de payer moins tout le monde, ou de presser le système comme un citron. Alors, on a beaucoup entendu cette dernière semaine, les salaires des personnels de l'hôpital public en France sont bien moins élevés que dans les autres pays européens. Non seulement c'est dégueulasse, mais en plus, c'est une des explications des sous-effectifs permanents à l'hôpital, puisque les gens qui viennent de terminer leurs études d'aide-soignante, d'infirmière ou de toubib, personne n'a très envie d'aller bosser dans des conditions par ailleurs très dures en étant payé une misère. Édouard Philippe, lui, dans le même discours d'ouverture, a tenu quand même à remettre en cause ce qu'il appelle le carcan des 35 heures. Tout le problème de l'hôpital public vient des 35 heures, évidemment. Donc l'idée, c'est que les personnels de l'hôpital sont pauvres parce qu'ils ne peuvent pas, à cause du droit du travail, ils ne peuvent pas travailler plus pour gagner plus. Alors bien sûr, tout ça repose sur un mensonge pur et simple. En réalité, les personnels de l'hôpital travaillent bien plus que 35 heures, souvent sous la pression de la hiérarchie, pas du tout par choix. C'est que, comme il n'y a pas assez de monde, tout le monde fait des heures sup. Juste, ces heures sup, elles ne sont généralement pas payées. Alors, bizarrement aussi, la personne qui a été choisie, ça c'est un peu anecdotique, mais quand même, qui a été choisie pour diriger le Comité Ségur National, c'est-à-dire être un peu la bosse des discussions aux côtés du ministre de la Santé, Olivier Véran, cette personne, c'est Nicole Notta. Alors, Nicole Notta, qui c'est ? On ne va pas en parler des tonnes, mais disons juste quand même, pour résumer, qu'elle a dirigé la CFDT et qu'à une époque, moi quand j'étais petit par exemple, la CFDT c'était un syndicat qui était à gauche, mais que c'est elle qui a fait le grand virage qui fait que la CFDT maintenant, c'est ce syndicat qui signe plus vite que son ombre toutes les saloperies demandées par le patronat. Et c'est elle donc qui a été l'actrice de ce grand tournant à droite. Depuis, elle a fini par quitter la direction de la CFDT et là, elle est devenue PDG. Bon, ma foi, qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette négociation ? Les syndicats hospitaliers se le demandent bien et c'est pas nous qui allons essayer de leur apporter une réponse parce qu'on ne sait pas où on la prendrait. Alors, ces discussions du Ségur de la Santé doivent se poursuivre pendant 6 semaines. 6 semaines, ça nous mène à mi-juillet. Tiens, au milieu des grandes vacances. Alors d'ici à penser que le gouvernement a envie que les conclusions sortent pendant que tout le monde est à la plage, c'est que les soignants ont quand même beaucoup beaucoup gagné en popularité ces derniers mois. Alors si jamais, par hasard, Philippe et Macron voulaient terminer ce Ségur de la Santé par un plan à la hauteur des multiples plans qu'ils ont proposés depuis leur arrivée au pouvoir pour l'hôpital, en résumé... Oh là là, on va vous donner des sommes énormes, on va faire tout bien, vous allez voir, ça va être génial. Tiens, justement, je trouve dans ma poche 20 centimes qui d'ailleurs étaient déjà à vous. Allez, c'est de bon cœur, je les mets sur la table. Si jamais c'était ça leur idée générale, c'est sans doute pas mal choisi mi-juillet comme date pour dire tout ça.
Canu Info.
Jeudi, demain donc, doit être annoncée une nouvelle phase de déconfinement, à peine intégrées les règles complexes de la première. Des règles qui, rappelons-le, n'ont surtout pas empêché les travailleurs de faire leur dû, en garantissant l'ouverture des transports en commun, des entreprises, des commerces. Vert ou rouge, les zones n'avaient plus tellement d'importance lorsqu'il s'agissait d'aller bosser. Pour les parcs, en revanche, c'est une autre histoire. À Paris, ils sont toujours fermés malgré les demandes répétées d'Anne Hidalgo. Paris sans parc, ça laisse à toutes les personnes qui ont vécu dans un taudis insalubre pendant 2 mois, les rues et les quais de métro pour se promener et se retrouver. Oui, mais, dit Olivier Véran, ministre de la Santé, c'est en zone rouge, donc plus de risques. Bon, mais alors pourquoi le centre commercial de Beaugrenelle est ouvert ? On peut supposer qu'en plus il y a la queue à l'entrée, puisque ayant pour seule préoccupation la santé publique, les gérants du centre commercial proposent des masques gratuitement à l'entrée. Cela tout à fait légalement, puisque dans une ordonnance prise en référé mardi dernier, le tribunal administratif a suspendu l'arrêté de fermeture émis le 13 mai par la préfecture de police de Paris, en application de la décision gouvernementale et qui empêchait les centres commerciaux de plus de 40 000 m² de rouvrir en Île-de-France. Le tribunal, pour prendre cette décision, était saisi par la foncière Apsis, copropriétaire du centre commercial. Par ailleurs, pourquoi le château de Chantilly, celui de Vaux-le-Vicomte ou l'abbaye de Chaly à Ermenonville dans l'Oise, qui sont avantageusement situés à moins de 100 km de la capitale, mais eux aussi en zone rouge, sont-ils ouverts alors que dans le même département, les citadins de Beauvais n'ont pas accès au plan d'eau, ne serait-ce que pour en faire le tour ? Et même si l'accès à ces lieux est limité, soumis à des règles drastiques, il apparaît impossible à des gens comme Véran de soumettre les parcs publics à ces mêmes règles pour éventuellement permettre à des gens d'en profiter gratuitement. Il en est de même à Marseille, les calanques et la totalité des plages sont fermées. Tiens, c'est pourtant une zone verte. Ou en Bretagne, pour certaines plages qui ont été ouvertes mais vont refermer car des incivilités ont été constatées, tandis que le Mont-Saint-Michel reste ouvert, il l'est d'ailleurs depuis le 11 mai. Entre autres contradictions, les lieux de culte sont aussi rouverts. Pendant ce temps, les manifs sont nassées ou dispersées, bien qu'elles respectent les règles de distanciation physique. La palme de la dérogation revient sans doute au Puy du Fou. Le parc à thème vendéen, aux réécritures douteuses de l'histoire, donateur aux associations anti-avortement et propriété de Philippe de Villiers. Ce rejeton de la noblesse vendéenne, ancien député européen d'extrême droite, secrétaire d'État à la culture sous Chirac, auteur de plusieurs ouvrages sur les racines chrétiennes de la France, en opposition à son islamisation supposée, Philippe de Villiers donc a été prévenu personnellement par un SMS de Macron, les deux larrons sont en effet très amis, qu'il pourrait rouvrir son parc à partir du 2 juin, et il s'en est aussitôt vanté. S'il décide de prendre son temps et de finalement ouvrir le 11 juin, les parcs à thème dans l'ensemble sont bien autorisés à ouvrir début juin. Un passe-droit monumental et une primeur mal placée qui fait bondir le monde de la culture. On peut lire sur les réseaux sociaux « Nommons de Villiers directeur du Festival d'Avignon et youpi, ça repart ». Alors on a beau chercher la logique de ces ouvertures et de ces interdictions, elle est assez impénétrable. Un indice quand même, les autorisations d'ouverture semblent surtout être délivrées à des lieux privés où l'État n'aura pas à gérer par ses propres moyens l'afflux de fréquentation. Mais dans ce cas, pourquoi on remarque encore une différence de traitement entre le Puy du Fou et les théâtres, les cinémas, les salles de concert auxquelles on n'a toujours pas proposé de rouvrir s'il voulait, avec des conditions sanitaires au top et avec le choix de le faire ou non. Depuis 2 mois et demi, l'argent public...
Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Et c'est avec des petites erreurs techniques qu'on voit qu'il y a bien une personne qui n'est pas en direct, mais enregistrée. Allez, à toi.
Et c'est aujourd'hui qu'est débattue à l'Assemblée nationale et au Sénat l'opportunité de lancer la très fameuse application Stop Covid, dont on nous rabat les oreilles depuis plus de 2 mois. On a déjà dit pas mal de choses ici et un peu partout sur les libertés individuelles, sur les données anonymisées qui peuvent très facilement être désanonymisées, sur le code source que le gouvernement avait d'abord promis de rendre public, et puis finalement, ça sera qu'une partie du code qui sera rendue public. On a glosé sur l'efficacité très contestée du machin, sur qui a ou n'a pas de smartphone, sur le nombre de gens qui devraient avoir l'appli pour qu'elle serve à quelque chose, sur la batterie des téléphones qui se vide en un rien de temps si on garde le Bluetooth en marche allumé tout le temps. On a beaucoup parlé de ce gouvernement aussi qui a juste tout loupé sur la pandémie, alors tellement tout depuis le départ. Macron qui invitait les gens à sortir de chez eux quelques jours avant de confiner tout le monde. L'incapacité des pouvoirs publics à se et à nous procurer des masques alors que la pandémie arrivait à grands pas. Les commandes de respirateurs inutilisables, la casse de l'hôpital public par ce gouvernement comme par ses précédents, on en a parlé juste avant. Mais alors cette fois-ci, cette appli a failli être finalement quand même assez dangereuse pour vous, pour moi, pour tout le monde. On a quand même pas des tonnes de doutes sur le fait que, alors certes, le gouvernement pensait sans doute aussi aider à freiner l'épidémie avec ça, mais c'est clair aussi que, entre autres utilités, cette appli aurait eu celle de nous faire faire un sacré un pas de géant dans l'acceptabilité générale du traçage technologique de chacun, chacune de nous. Mais, comme ce gouvernement, si fier par ailleurs d'être le gouvernement de la start-up nation, est décidément plus incapable que n'importe quel le plus nul de tous les gérants de PME qu'on peut imaginer, eh ben, ce gouvernement est encore à la ramasse. Depuis le déconfinement, le nombre de cas de Covid continue à diminuer. On ne sait pas si finalement c'est effectivement une maladie qui ne survit pas à la chaleur. On ne sait pas ce qu'on doit penser de cette nouvelle histoire d'immunité croisée, qui est peut-être une raison pour laquelle en fait... la plupart des gens qui risquaient d'être infectés le seraient déjà. Bon, tout ça, c'est pas sûr du tout. Hein. On ne sait pas si c'est juste un certain nombre des habitudes qu'on a prises, vous et moi, pendant ces derniers mois, comme de moins s'approcher des gens, d'arrêter de se faire la bise, tout ça. Mais en tout cas, on doit bien constater que l'épidémie est vraiment sur la pente descendante. Bon, moi, j'habite à la Cambrousse et je viens à Lyon qu'une fois par semaine. J'ai bien vu aujourd'hui que, depuis la semaine dernière, le nombre de gens qui portent des masques dans la rue a été très largement divisé par deux. C'est-à-dire que tout le monde se détend. Et la deuxième vague semble, malgré tout, bien, bien hypothétique. Alors, d'ici à ce que les gens téléchargent en masse, et on ne sait pas quand, mais ce n'est pas aujourd'hui, puisque ça n'a pas fini d'être discuté à l'Assemblée nationale, ce n'est pas demain, ce n'est pas tout de suite en tout cas. D'ici à ce que, dans encore quelques temps, les gens se mettent à télécharger en masse une appli qui va informer l'État en permanence de tous leurs déplacements, eh ben, on peut dire que ce n'est pas gagné pour le gouvernement. Et alors, les gens qui n'ont pas de smartphone, eh ben, figurez-vous que la société WeThings est en train de développer une montre connectée spéciale Stop Covid, qui donc devrait être commercialisée, qui devrait coûter entre 40 et 50 euros, et qui sera disponible, ma foi, après l'été. Bon, moi, perso, si j'avais des actions dans la société WeThings, je les revendrais vite fait, bien fait.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Et alors, on va avoir des nouvelles de Malte. Et il se passe rarement une semaine sans qu'on vous en parle, hein, qu'on parle de ces coups de vis pour empêcher par tous les moyens des exilés de mettre un pied sur leur île. Depuis le 30 avril, environ 160 personnes secourues en Méditerranée, donc entre le 30 et le 7 mai, sont à bord d'un bateau de croisière réquisitionné par le gouvernement maltais afin de placer en quatorzaine les personnes en raison de l'épidémie actuelle. Bon, sauf qu'à part une vingtaine de personnes, principalement des femmes et des enfants, aucune d'autre n'a été autorisée à accoster. Alors que cela va bientôt faire, on peut calculer rapidement, environ un mois que les personnes se trouvent à bord. Il est quand même bon de préciser qu'il ne s'agit pas d'un bateau de croisière luxueux qui fait des milliers d'étages, qui est immense, avec piscine, sofa, casino et tout, comme vous pouvez l'imaginer.
Alors, attends, parce que tu verras plus tard qu'à bord des bateaux de croisière luxueux, c'est pas luxueux pour tout le monde non plus.
Oui, c'est ça. mais plus d'un espèce de bateau de plaisance touristique fait pour des courts séjours. On passera aussi sur le fait que de retenir dans une grande promiscuité 160 personnes va à l'encontre de toutes mesures qui sont prises à travers le monde pour enrayer l'épidémie et que si réelle quatorzaine il devait y avoir, cela aurait pu se faire sur la Terre dans de bonnes conditions pour des gens sauvés de la noyade. Bref, cela n'étonnera personne venant d'un gouvernement qui est prêt à renvoyer dans les mains de ses bourreaux des personnes secourues ou bien en filant du gasoil et un moteur à un bateau en perdition dans les eaux maltaises pour qu'ils aillent accoster en Italie. Alarmphone qui reçoit, c'est une ONG qui reçoit des appels des personnes en détresse et qui ensuite soit relaye au centre de secours pour qu'il y ait un sauvetage le plus rapide possible, soit qui recueille aussi des témoignages. Le 19 mai a reçu des signalements de personnes à bord qui lui ont relaté des tentatives de suicide et des grèves de la faim, ainsi qu'un manque de nourriture et de soins. Human Rights Watch indique que, je cite, ces bateaux qui battent tous pavillon maltais sont des navires de plaisance, comme je disais plus haut, conçus pour de courtes croisières et non pour accueillir des personnes pendant de longues périodes. Du côté du HCR, au commissariat aux réfugiés, organisme de l'ONU, rappelle que, je cite, un bateau n'est pas un lieu pour accueillir des personnes qui ayant besoin d'une aide humanitaire. Oui, alors des fois, c'est vrai qu'il y a besoin un peu d'aller taper aussi haut dans la hiérarchie pour dire des choses aussi bêtes que, bah oui, non, un bateau, c'est pas fait pour accueillir des gens pendant un mois et qui plus est des gens en détresse. Le HCR demande à Malte et aux États européens de s'entendre sur un accord de répartition de ces migrants afin de les mettre en sécurité sur la terre ferme. Bien sûr, du côté de Malte, on joue la montre en attendant qu'un accord soit finalisé réellement avec chiffres exacts à l'appui de qui va où, machin. Pour autoriser, entre guillemets, un retour sur la terre de ces personnes. Le HCR, dans sa communication, tacle gentiment Malte. Je les cite, ces obligations de secours immédiat ne peuvent être échangées avec l'offre de carburant et d'aide. Les États doivent faire tout leur possible pour secourir rapidement les personnes en détresse, car un retard, même de quelques minutes, peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Et là, effectivement, le HCR fait référence, comme je le rappelais un peu plus tôt, à la fois où une patrouille maltaise avait dissuadé puis échangé du carburant et un moteur en échange de quoi les passagers se résignaient à accoster à Malte et acceptaient d'aller en direction de l'Italie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque vendredi, 140 personnes sont secourues et conduites immédiatement sur un navire de croisière du même type, pas loin d'ailleurs. Au total, ce sont donc 300 personnes réparties sur 3 navires de tourisme en tout qui attendent que les gouvernements maltais et européens se préoccupent de leur sort. Voilà, donc un petit point très rapide sur la situation actuelle en Méditerranée. C'est pas joli joli. Pourquoi il s'avère que là le gouvernement maltais se met à secourir des gens? C'est pas parce qu'il leur a eu une petite piqûre d'humanité, pas du tout. C'est parce qu'il y a vraiment plus aucune au bateau d'ONG qui est présente sur la zone et qui eux faisaient du travail très sérieux de secours des bateaux en détresse. Et donc c'est des gouvernements ou les gardes-côtes libyens. Donc pour les gardes-côtes libyens, ils les ramènent systématiquement en Libye. Quand c'est les gouvernements maltais ou italiens, mais en l'occurrence là, ces derniers temps, c'est quand même plutôt le gouvernement maltais qui va. Bah en fait, ils y vont avec la ferme intention de pas ramener les gens sur leur terre et de créer les situations qu'il y a là en ce moment. Sachant qu'en ce moment, c'est quand même un peu la période juste après le mauvais temps où dans l'année, en gros, les départs sont plus nombreux, quoi.
Ce sage.
Oh là là, ça fait longtemps qu'on était confinés, on n'a plus l'habitude de tous ces boutons. Alors, une passe d'armes entre la Hongrie et l'UE force le gouvernement hongrois à fermer ses zones de transit. Et donc le gouvernement hongrois essuyait une première défaite devant la Cour européenne de justice concernant ces zones de transit. Et Grigori Bakondi, bon j'accroche sûrement, désolé, un chargé à la sécurité proche du Premier ministre d'extrême droite Viktor Orban, a déclaré faire tout ce qui était en son pouvoir juridiquement pour continuer pour contrer la décision de la Cour européenne. Alors, bon, en général, quand la Cour européenne donne ce genre de décision, c'est qu'elle est assez armée juridiquement pour pas être contrée facilement. Bref, la Cour européenne a étudié le cas de 4 demandeurs d'asile retenus depuis plus d'un an par le gouvernement hongrois dans cette zone. Elle a estimé que, je cite, le placement des 4 demandeurs d'asile dans cette zone de transit devait être considéré comme une mesure de rétention. Leurs conditions de vie s'apparentant à une privation de liberté, notamment parce qu'ils ne peuvent pas légalement quitter cette zone volontairement en quelque direction que ce soit. Et donc, comme la Cour européenne considère que c'est une rétention, elle ne doit pas excéder 40 jours, et que les personnes actuellement détenues dans ces camps l'étaient sans aucun motif valable. Donc, d'abord, ça concerne ces 4 premiers cas, et c'est généralisé à toutes les personnes qui sont dans ces camps. Alors, pour rappel, la Hongrie a, en 2015, érigé une barrière le long de sa frontière avec la Serbie, clôture partiellement électrifiée. On le rappelle, si vous tapez dans Google frontière Hongrie-Serbie, c'est assez impressionnant les images. Vous voyez une immense frontière barbelée, grillage, c'est assez flippant. Donc dans le but d'empêcher toute entrée dans son pays, les personnes souhaitant passer en Hongrie seraient donc enfermées dans ces deux camps, dits zones de transit, et leur demande d'asile est examinée, et donc examinée dans des conditions plus que douteuses, parce qu'on on sait bien, pour déposer une demande d'asile, c'est quand même un moment où on a besoin d'avoir un avocat, de rencontrer plusieurs fois son avocat, de réunir tout un tas de papiers, que des fois c'est des papiers qu'on a besoin de se faire renvoyer du pays qu'on a fui pour pouvoir prouver un truc auquel on n'avait pas pensé à prendre avec soi quand on s'est barré dans des conditions parfois compliquées. Donc voilà, donc on imagine bien que quand on est entre quatre barbelés électrifiés dans un gouvernement clairement hostile au fait qu'on soit là, ça paraît vraiment vraiment compliqué de pouvoir se procurer le moindre bout de droit assez équitable. Alors, et ben deux jours plus tard, après cette annonce, après l'annonce donc de Sergei la sécurité qui a annoncé faire tout en son pouvoir pour, et ben en fait il a peut-être regardé un tout petit peu son manuel de droit, puis en fait le gouvernement hongrois a fait volte-face et annonce la fermeture pure et simple de ces deux camps pour se conformer à la décision de la Cour européenne. Selon une ONG présente dans les camps, c'était notamment cette ONG qui a monté les dossiers, qui a fait monter le truc à la Cour de justice européenne pour les quatre demandeurs d'asile. Les camps ont été vidés dans la nuit de jeudi. Les quelques 300 personnes détenues dans ces camps ont été déplacées vers un lieu ouvert ou semi-ouvert dans le pays. Rien pour le moment n'indique dans quelles conditions vont se retrouver ces personnes, ni pour combien de temps elles seront retenues. Et même si c'est, on l'imagine déjà, un mieux pour elles, il y a quand même fort à parier pour que le gouvernement de Viktor Orban va faire tout ce qui est en son pouvoir pour rendre leurs conditions de vie extrêmement difficiles.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
On a peu entendu parler durant ce confinement du sort des personnels de croisière. Les bateaux-villes, de luxe ou pas, ne sont pas autorisés à naviguer pendant la pandémie. Mais ils ne sont pas autorisés non plus à accoster dans tous les ports, donc ils errent au large des côtes. À quai, les autorités locales refusent de toute façon tout débarquement. Ça ne serait pas un énorme problème s'il ne s'agissait que de bateaux, mais ça concerne évidemment tous les personnels. Les passagers, puisqu'ils sont originaires de pays riches, ont été rapatriés plus ou moins rapidement, mais les équipages, eux, n'ont pas eu ce privilège. Les armateurs jugent qu'il est trop coûteux d'organiser un rapatriement et n'ont pas non plus le droit de débarquer n'importe où. Le pays de résidence doit donner son accord pour accueillir ses ressortissants, ce que n'a toujours pas fait l'île Maurice, par exemple. 33 Mauriciens et Mauriciennes sont prisonniers de leur bateau à Durban, en Afrique du Sud, faute de l'autorisation du gouvernement à leur transfert. Rien qu'aux États-Unis, les gardes-côtes estiment que 104 paquebots sont à l'ancre, avec à leur bord 72 000 membres d'équipage. Certains ont bénéficié de rapatriements, mais c'est un processus très lent, et ce parce que les centres de lutte et de prévention des maladies, qui pilotent la lutte contre l'épidémie aux États-Unis, exigeraient que les employés des compagnies de croisière soient transportés vers leur pays d'origine, en supposant donc que ce dernier les accepte, via des vols charter. Cela conduit à des situations indignes et dramatiques, puisque à bord du Seabourn Odyssey, stationné devant l'île caribéenne de la Barbade, 4 personnes sont décédées alors qu'elles n'avaient pas contracté le Covid-19 et 3 d'entre elles se seraient probablement suicidées. Les protestations sont nombreuses mais peu écoutées. Cairo Sadana, un DJ brésilien employé par la compagnie Royal Caribbean, a porté plainte devant le Haut Commissariat des Nations Unies pour la situation d'incarcération qu'il subit. Le blog Cruise Law News rapporte que des employés du Majesty of the Seas se sont rassemblés sur le pont le 15 mai et ont scandé « Renvoyez-nous chez nous ». Ils ont brandi plusieurs pancartes, l'une « Do you sleep well, Mr. Bailey ?» fait référence au PDG de Royal Caribbean International, Michel Bailey, qui déclarait que renvoyer les membres de l'équipage chez eux via le charter privé était trop cher. Mr. Bailey qui a perçu environ 25 millions de revenus grâce à cette compagnie au cours des 4 dernières années. Les employés du Majesty of the Seas brandissaient une deuxième pancarte qui indiquait « De combien de suicides supplémentaires avez-vous besoin ?» à propos de la mort d'un ingénieur polonais qui a apparemment sauté par-dessus bord du Jewel of the Seas et à la mort récente d'un assistant chinois qui est décédé à bord du Mariner of the Seas. Par ailleurs, des membres de l'équipage du Navigator of the Seas, appartenant aussi à cette compagnie, ont mené une grève de la faim pour faire entendre leur droit au rapatriement. Dans le port de Marseille, les navires de croisière ont été obligés d'accoster sans que les équipages soient autorisés à débarquer. Depuis le 15 mai, ils y sont de nouveau autorisés, mais sous condition, à savoir nécessiter une prise en charge médicale, effectuer des manœuvres indispensables sur le quai ou, éventuellement, transiter vers son pays de résidence, à condition de ne pas être porteur du Covid et de justifier d'un plan de transport organisé et mis à disposition par l'armateur responsable. Comme aux États-Unis, le rapatriement est donc forcément organisé par la compagnie, et si celle-ci estime que c'est trop cher, les équipages n'ont aucune autre solution que de rester sur leur navire.
Canu Info.
Ben oui, il y en a parmi nous qui sont privilégiés. C'est celles dont on entend la voix clairement, celles qui ne sont pas là, bien sûr. Alors, non, bah attendez, trêve de blague maintenant. On va parler de George Floyd. Ma foi, George Floyd était un noir américain. Il a rencontré 4 flics lundi et il en est mort. J'en ai entendu parler ce matin sur France Inter, où Nicolas Demorand n'a pas hésité à dénoncer fermement le racisme des flics. Il était indigné, à juste titre, par cette histoire. George Floyd avait semblé ivre aux flics, peut-être drogué. Les flics disent qu'il a résisté à son arrestation. Du coup, ils l'ont plaqué à terre et l'un d'eux lui a appuyé le genou sur le cou. Des passants se sont arrêtés, ont essayé de dire aux flics de relâcher la pression. Une passante a filmé la scène. 10 minutes, il y a 10 minutes de vidéo pendant lesquelles on voit George Floyd agoniser, dire qu'il n'arrive pas à respirer, et puis ne plus rien dire du tout. Pendant ce temps, un autre des flics tient la foule à distance. Monsieur Floyd était inconscient quand l'ambulance est arrivée, et il est mort plus tard à l'hôpital. Nicolas Demorand n'est pas le seul à avoir été indigné par cette mort. La presse française est assez unanime là-dessus. Même Le Figaro a l'air de trouver cette histoire craignos. Bon alors attention, quand je dis Le Figaro, c'est, je parle des journalistes, hein, parce que si on fait la bêtise de regarder le forum des lecteurs du Figaro, là, c'est quand même déjà nettement plus moche. Mais enfin, le journaliste, oui, il trouvait que c'était moche. Mais alors, quand même, ce qui peut faire malgré tout rigoler dans cette histoire, c'est le parallèle qu'on pourrait considérer comme un peu évident, mais pas tout le monde visiblement, le parallèle avec cette pauvre Camilla Jordana. Alors, si vous en avez pas entendu parler, bon, c'est que vous êtes un peu tenu à l'écart des médias...
Des médias réseaux sociaux.
Ouais, c'est ça, des médias réseaux sociaux ces derniers jours. Mais voici un résumé. Camilla Jordana, on peut le savoir, mais on peut aussi ne pas le savoir. Ma foi, c'est une chanteuse qui fait un peu de la merdouille à la mode, quoi. Il faut préciser pour la compréhension de la suite quand même qu'elle a carrément une gueule d'arabe. Et alors samedi dernier, dans une émission de divertissement de la Téloche, pour ne pas la citer, On n'est pas couché, elle a eu le malheur de dire que de dire ce qui pour une bonne part de la population est une évidence, que la police française cette fois, que la police française est raciste. Elle a dit il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j'en fais partie. Aujourd'hui, j'ai les cheveux frisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Elle a dit aussi, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. Ouh putain, bah alors là, j'aime mieux vous dire, c'est pas la même que quand on parle de la police américaine pour les différents éditorialistes ou hommes politiques français. Là, c'est bien la police de la République française. Alors là, déferlement médiatique contre Camilla Jordana, propos mensongers et haineux qui alimentent la haine et la violence, ça c'est Castaner qui nous dit ça. Tous les éditorialistes y vont de leur intervention, blablabla. On nous ressort qui ? On nous ressort Manuel Valls, quoi. Qu'on avait la chance d'avoir oublié un peu. Mais là, bon, il faut aussi qu'il revienne et qu'il fasse sa petite déclaration pour sauver l'honneur de la police. J'ai même pas relevé ce qu'il a dit, ça n'a aucun intérêt.
Mais ça, je pense qu'à mon avis, les journalistes doivent aller chercher Manuel Valls un peu pour choper la phrase qui va faire le buzz, quoi.
Ouais, certainement, mais là, c'était du pauvre buzz parce que à la fin, il a plus ou moins répété ce qu'a dit Castaner, quoi. Et tous ces gens, bien sûr, se foutent complètement de la réalité. Hein. Des 12 personnes qui sont mortes d'avoir rencontré des flics pendant le confinement, peut-être. Du taux incroyable de flics qui votent Le Pen. Non, tout ça n'a rien à voir. Tout ça ne veut pas du tout dire que la police est française. de l'évidence de toutes les vidéos qui montrent des flics en train de cogner des gens en proférant des insultes racistes. Mais non, ça veut certainement pas dire que la police française serait raciste. Du fait que l'écrasante majorité des gens qui meurent en France d'avoir croisé les flics ne sont pas blancs. C'est-à-dire que si jamais ils ont un prénom qui fait un peu français, généralement c'est qu'ils sont gitans. Mais non, tout ça n'a rien à voir avec un quelconque racisme de la police, évidemment. Castaner, quand même, il est bon gars, parce qu'il a bien dit que là, il ne va pas porter plainte contre Camilla Jordana. C'est sympa de sa part. Alors peut-être que cette sympathie, peut-être que cette gentillesse de sa part est aidée par le souvenir, ben, par exemple, de la plainte que Sarkozy, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, avait portée contre le groupe La Rumeur. Allez, je vais vous raconter cette histoire vite fait. La Rumeur, un groupe de hip-hop hyper bien, là, des fois un peu homophobe, mais bien quand même, avait à l'époque publié un texte qui accompagnait un de ses CD, c'était en 2002, un texte dans lequel le chanteur Amé parlait, entre autres, je cite, « Des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété. » Ouh là là ! Là, Sarkozy qui s'emmerde ce jour-là, ou peut-être parce qu'il y avait un flic qui l'avait particulièrement mal pris, ou je sais pas quoi. Bref, plainte, procès, argumentaire, et relax bien sûr, parce que Amé, le chanteur qui avait signé le texte, a très bien prouvé qu'il parlait de faits réels, qu'il n'y avait donc pas de calomnie. Le ministère de l'Intérieur a fait appel, une première fois, ils ont perdu, après il y a eu cassation, ce qui fait que l'appel a dû être rejugé, deuxième appel. Et alors, entre-temps, bien sûr, il y a des historiens qui sont venus au procès pour parler du 17 octobre 61, faire un grand exposé sur les massacres des Algériens par la police française le 17 octobre 61. Il y a eu des tas d'experts qui sont venus parler de tous les crimes policiers. Et le ministère de l'Intérieur a donc perdu tous les procès, les trois procès, tout ça sur 6 ou 8 ans, je ne sais plus. Procès. Et à chaque fois, le ministère de l'Intérieur a perdu. Et à chaque fois, ça a été quand même un peu médiatisé. Et à chaque fois, il y avait des gens qui sont venus avec des tonnes d'arguments à la barre. Alors d'ici à penser que Castaner a peut-être juste pas tellement envie de voir des arguments solides, évidents, implacables être développés à la barre d'un tribunal pour dire que Camilla Jordana, ma foi, ce qu'elle a dit, c'est juste la vérité, c'est pas tout à fait impossible. En tout cas, on va quand même noter une chose, c'est que les quatre flics de Minneapolis, donc celui qui appuyait son genou, celui qui éloignait les autres, et les deux autres qui juste traînaient à côté, ces quatre flics ont été immédiatement suspendus. Les flics qui ont tué Hakim Hajimi, qui ont tué Wissam El Yamni, qui ont tué Ali Ziri, pour n'en citer que trois parmi des dizaines et des dizaines et des dizaines sur ces dernières années, ces flics-là, eux, ils n'ont jamais été condamnés, ils n'ont jamais eu de problème. Enfin, ils ont eu des procès, hein, là, bien souvent, mais une très brève recherche sur Internet, par exemple, nous amène à avoir un article de Street Press dont le titre est évocateur. Le titre, c'est « En 10 ans », l'article remonte à il y a 2 ou 3 ans. En 10 ans, 47 décès liés aux violences policières, aucun fonctionnaire en prison. Et alors, si on lit le détail de l'article, on voit bien que sur tous ces flics impliqués dans ces 47 décès, il y en a 3. 3 qui ont été condamnés. 3 condamnations à des peines de prison, mais pour les 3, à des peines de prison avec sursis. Alors, le racisme de la police américaine, c'est une réalité, et c'est une réalité dégueulasse, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'indignation française, des fois, elle est quand même pas mal sélective.
Et on a fini ce...
Non, du tout, il fallait que tu mettes une petite virgule et après...
Tu veux une virgule? Eh ben non, t'auras pas de virgule.
Bon, c'est pas grave, alors je vais vous raconter une autre histoire de police, mais alors celle-là, par contre, c'est carrément une...
Celle qui nous
fait rire. C'est la petite histoire pour terminer dans la bonne humeur. Figurez-vous que c'est un article que j'ai trouvé sur le site Nantes Révolté. Je le dis parce que je vais donner leur titre qui est hyper bien. Nantes Révolté a trouvé son info sur eux, sur le site de RTL. En tout cas, l'article de Nantes Révolté s'appelle « Même la police déteste la police. Des agents drogués et alcoolisés gazent leurs collègues. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, les deux flics affectés à la police des frontières de Roissy ont gazé un gardien de la paix qui promenait son chien en pleine rue pour voir ce que cela faisait.
Ah oui.
Plus en détail, c'est jeudi dernier, le soir, peu après 23h, un gardien de la paix affecté en Seine-Saint-Denis promenait son chien à Dammartin en Gueule, en Seine-et-Marne. Bon, on s'en fout. Lorsque deux hommes ont fait irruption devant lui et l'ont gazé à bout portant à 2 reprises en utilisant une grosse gazeuse lacrymogène. La victime appelle alors la gendarmerie et... Oh putain, attendez, j'ai tout perdu. Ça, c'est parce
t'as perdu ton fil. Hein.
Ouais, c'est parce que je ne sais plus imprimer, c'est sur mon ordinateur. Et,
et tu en étais donc à la gendarmerie.
Eh ouais. La victime appelle alors la gendarmerie et leur décrit la scène et il leur montre l'immeuble dans lequel les deux hommes sont allés se réfugier. Il leur précise également que ces agresseurs étaient porteurs de pantalons identiques à ceux utilisés par les forces de l'ordre. Une patrouille de gendarmerie arrive donc suite à ce coup de fil au bas de l'immeuble, remarque un appartement allumé alors que c'est un peu tard, d'où leur parviennent des grands éclats de voix. Ils rentrent, ils interpellent les deux occupants et il s'agissait de deux fonctionnaires de police. L'un est adjoint à la sécurité, l'autre est gardien de la paix. Il déclare à ce moment-là avoir consommé une bouteille et demie de whisky, fumé un joint. L'un a un taux d'alcoolémie de 2 grammes par litre de sang, ce qui est quand même pas mal. L'autre un peu moins, mais quand même. Et ils reconnaissent avoir l'idée de faire usage de leur conteneur lacrymogène police sur la voie publique pour voir ce que cela fait. Et l'avoir utilisé devant chez eux à deux reprises sur la victime qui est là à ce moment-là, avant de prendre la fuite dans le hall de leur immeuble. Lors de la perquisition de l'appartement, les gendarmes ont également découvert un conteneur lacrymogène siglé police nationale d'un demi-litre. Coïncidence, ajoute le site Nantes Révolté, le gouvernement a dépensé des millions d'euros pour acheter plusieurs dizaines de milliers de ces nouvelles gazeuses pour ces policiers. Eh ben oui, ma foi.
Donc, c'est vrai que c'est les vides entre eux. Bon.
C'est ça, s'ils l'utilisent entre eux, c'est un, disons, un moindre mal.
Et donc, cette fois-ci, le Canu Info...
Cette fois-ci, le Canu Info se termine, dites donc, il est 46.
On va savoir
s'il y a idée noire, nous on vient plus, on n'est pas au courant de ça. Hein.
On est... la semaine dernière, ils n'étaient pas là. Donc, en tout cas, donc on ne sait pas. Tendez l'oreille, on ne sait jamais. En attendant, on vous retrouve la semaine prochaine. Et comme on aura un peu de temps, juste après notre super générique de fin, on vous mettra la musique de la rumeur qui s'appelle La meilleure des polices, qui est d'autre qu'une de leurs meilleures musiques. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.
Ciao.
Radio Canu. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org. Rebelle des radios.
Transforme en habitat, les jeunes délaissent leur toit familial pour connaître l'aventure. Comme beaucoup d'entre eux, je tente de fuir tous ces coups et férus de connaissances, je combats mes ennemis comme je le peux. Mes mots se déclenchèrent dans le fracas des chaînes et ne trouve au point le repos avant que le soleil n'ait atteint son zénith. Dans ma zone, le rouge ronge la rage négro.
La meilleure des polices ne porte pas l'uniforme. Incolore, informe, elle s'immisce en tout, se mêle de tout, se ressent partout, centrale sans bruit, sans rien d'écrit, sans aucun parfum, de la moindre gâchette, parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable, dans l'art de tous nous mettre à table, tous en place, tous remis en cage. Sage, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements, elle ne gâche pas son temps, des heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, quel vent clé en main, où on connaît le moyen de te procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on crache, tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. La meilleure des polices, c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs. Et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. Tout ce que tu payes. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés, c'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. C'est la peur de faire un pas, puis deux, puis trois. Parce qu'enfant, on t'a dit que t'étais une merde et que t'as fini par le croire. La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit, avec ton propre consentement. Sans jamais oser montrer les crocs, quand bien même on te propose de t'enculer. Tu bectes pour garder le goût. La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, ou de les mettre au cachot. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau. Tout ce que tu bectes pour garder le goût, de moisir à crédit dans un.